Il brûlait les cotons, il les mettait au feu. Et il a vu dans le feu la Vierge Marie. Il nous a dit ça, et moi c'est quelque chose qui m'est resté très profondément. Hein? Et donc, et d'autant plus qu'il était peu croyant au départ. Alors il y a eu cela. Et puis plus tard dans ma vie, ma mère elle-même a été atteinte d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Et puis j'ai pas voulu la mettre dans une maison de retraite. J'ai voulu qu'elle soit près de moi. Et je cherchais une personne qui puisse la garder, hein, qui puisse s'occuper d'elle. Et donc j'avais mis une annonce dans une boulangerie. Et puis j'ai trouvé comme ça une personne qui s'est présentée. Quand je l'ai vue, que j'ai discuté avec elle, eh bien tout de suite j'ai senti que c'était la bonne personne. Et de fait, elle est restée 14 ans auprès de ma mère. Jour et nuit, enfin avec quelques temps de vacances bien sûr, mais elle a vraiment assuré la vie quotidienne de ma mère pendant longtemps. Et donc après l'avoir rencontrée la première fois, je suis allé remercier la Sainte Vierge à la cathédrale, là où j'étais à Rouen, j'habitais Rouen à l'époque. Et qui est-ce que je retrouve au pied de la Sainte Vierge? La même personne qui était venue elle aussi remercier la Sainte Vierge. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment c'était un signe que c'était la Vierge Marie qui m'avait envoyé cette dame. Et puis ça c'était en 2007, et puis en 2018 c'est plus récent, Eden en parlait à l'instant, j'avais rencontré dans la rue par terre une dame qui était SDF quoi, et ça m'avait vraiment bouleversé. Et donc, je reviens chez moi et je m'adresse à la Vierge Marie en me disant, mais c'est pas possible, très sainte Vierge, faites quelque chose. Et donc, je suis rentré, je me suis rendu un peu remis sur mon ordinateur, et puis après, je suis allé porter quelques petites choses à cette dame. Et en arrivant devant elle, eh bien c'est là que j'ai vu, que j'ai fait la connaissance d'Eden et de son compagnon Patrick, qui faisaient tous les deux la maraude ce jour-là. Donc c'est comme ça que je suis venu à Saint-Vincent-de-Paul, par la Vierge Marie, on peut dire. Voilà. Et puis le dernier témoignage que je veux donner, c'est lorsque j'ai fait un pèlerinage en 2017 à Pellevoisin. La Sainte Vierge est apparue à Pellevoisin à une jeune femme, une servante, une pauvre, une fille très simple, Estelle Faguette, et elle lui avait dit « Publie ma gloire, fais-moi connaître, publie ma gloire », sous-entendu, s'agissant de la Vierge Marie, qui est l'humilité la plus parfaite qui soit, « Publie la gloire de Jésus, hein, amène les âmes à Jésus ». Et voilà. Et cette parole m'a vraiment touché autant que m'a touché la dame SDF que j'ai vue dans la rue. Et c'est comme ça que de là est né ce livre. C'est-à-dire que j'ai voulu faire connaître les paroles de la Vierge Marie dans ses apparitions reconnues par l'Église. Mais en France et dans le monde, parce que j'avais constaté que il y avait quantité de livres, autant que d'apparitions, mais toutes les paroles de la Vierge Marie étaient réparties en autant de livres qu'il y avait d'apparitions. Et donc l'idée m'a été donnée donc de retracer en un seul ouvrage l'ensemble de ces paroles reconnues par dans ces apparitions reconnues par l'Église. Voilà. Et donc il en est né ce livre que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Donc ce livre, ce n'est pas tant mon livre que le livre de la Vierge Marie, puisque vous l'avez bien noté, ce sont ces paroles qui sont au cœur du livre, dans ces apparitions depuis les plus anciennes, et ça nous remonte à l'an 430, jusqu'aux plus récentes, notamment celle de la plus récente reconnue par l'Église, Saint Nicolas en Argentine. Voilà. Alors, Saint Cyril d'Alexandrie, au Concile d'Éphèse, qui proclama Marie Théodokos, mère de Dieu, ça c'était en l'an 431, disait à l'époque, ce qui est toujours vrai et ce qui sera toujours vrai, quelles lèvres humaines pourraient dignement célébrer la Vierge Marie, qui est véritablement au-dessus de toutes les louanges. Aucune lèvre humaine, bien sûr. Alors c'est la raison pour laquelle, en ce livre, donc vous avez au centre les paroles de la Vierge Marie, et puis, je dirais, comme petite fleur tout autour, vous avez des commentaires qui sont des commentaires de saints, de bienheureux, de manière préférentielle, et puis aussi d'encycliques papales. D'encycliques papales ou d'exhortations du pape, de nos papes successifs. Voilà, donc voilà un petit peu la matrice et le contenu de cet ouvrage. Alors, maintenant, pour vous en parler, naturellement, je ne peux dire que des bribes, hein, parce qu'il faut le lire, hein, et je ne peux pas, naturellement, en le temps qui m'est imparti, tout vous livrer. Mais ces paroles de la Vierge Marie qu'elle a dites, publie ma gloire, en fait, je les ai senties comme s'adressant à moi, mais elles s'adressent à chacun de vous, ici présents. Elles s'adressent à chacun de nous, c'est parce que c'est à chacun de nous qu'elle demande de publier sa gloire. C'est à chacun de nous, à partir de ces paroles, d'aller vers d'autres personnes de votre entourage, de nos entourages, et de faire connaître la Vierge Marie. Hein. Nous avons tous cette même mission de publier la gloire de Marie, qui est la gloire de Jésus. Voilà, hein, ce que je voulais vous dire, c'est pas moi, c'est pas Estelle Faguette au 19e siècle, c'est nous tous. Et aujourd'hui, plus que jamais, hein, où nous vivons des temps qui ne sont pas faciles, hein, qui ne sont pas faciles pour le monde, qui ne sont pas faciles pour l'Église, où il y a un temps d'apostasie, hein, on peut dire. Hein. Et donc, on a une mission forte d'aller autour de nous avec la Vierge Marie et ses paroles. Alors, elle a des paroles qui sont simples, qui sont percutantes, qui sont audibles, hein, je dirais, de tout le monde, y compris à partir de l'adolescence. Hein, je crois que tout le monde peut comprendre ce que nous dit la Vierge Marie. Hein, il n'y a pas de difficulté à cela. À la Salette, elle avait dit aux enfants, hein, Maximin et Mélanie, qui étaient des enfants, hein, mais c'était même pas des adolescents. Mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Donc la Vierge Marie, elle veut que ses paroles soient connues et diffusées. Donc, diffusons-les, parce qu'elle est la messagère du Christ. Hein. Elle est au premier rang, hein, auprès du Christ, pour nous conduire à lui et par Jésus nous conduire au Père éternel. Et puis, tout récemment, Saint-Nicolas en Argentine, 1988, elle disait, je vous le redis, écoutez ma parole et faites-la connaître, parce qu'elle renferme un important enseignement. Donc ça, c'est tout à fait récent comme parole de la Vierge Marie. Et bien voilà, elle nous dit à la fin du XXe siècle ce qu'elle nous disait au cours du XIXe, de faire connaître sa parole. Et on peut le dire, en ces temps de crise de l'Église, mais de crise aussi du monde, hein, tout entier, parce que il n'y a pas que l'Église, hein, qui est en crise, hein, c'est le monde entier, les sociétés humaines, civiles sont en crise aussi, hein. Vous le savez, vous le voyez bien. Eh bien, ces demandes de la Vierge Marie, ces paroles revêtent une importance encore plus grande, parce que nous sommes peut-être à la fin des temps, hein, d'une certaine manière, hein, faut bien le sentir. Et que, au regard du salut, et du salut, de notre propre salut, mais du salut que nous avons, nous avons aussi en charge le salut des autres, autant que faire se peut, eh bien, c'est un devoir absolu de faire connaître ces paroles. Alors, moi, je dirais simplement quelques éléments parmi tous ceux qu'elle a pu dire, que j'en ai identifié pour ce soir 5. Le premier, c'est le respect du jour du Seigneur. Elle a demandé de manière insistante à Vinet en France en 1649, à La Salette, à Saint-Bosile de la Sylve dans l'Hérault, ça c'était à la fin du 19e siècle, eh bien que l'on respecte le jour du Seigneur, que l'on honore le jour du Seigneur. Et à La Salette, elle l'a dit, hein, elle l'a dit. Un des mots qui appesantissent le plus le bras de mon fils, c'est le non-respect du jour du Seigneur. C'est le non-respect du dimanche. Alors, respect du jour du Seigneur, jour de prière, jour où l'on va à la Sainte Messe, c'est évidemment quelque chose de central. Et donc vous voyez que, par exemple, ouvrir les magasins le dimanche, faire travailler les gens le dimanche, c'est pas du tout dans les vues de Dieu, hein, du tout. Le deuxième point sur lequel elle insiste beaucoup, c'est l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie. La Sainte Vierge s'efface toujours devant son divin Fils. Elle s'efface toujours devant l'Eucharistie. C'est vrai à l'île Bouchard, mais c'est vrai partout. Eh bien, lorsque la Sainte Eucharistie apparaît, lorsque la Sainte Hostie apparaît, eh bien, la Sainte Vierge s'efface, se met en retrait. Et elle nous demande de nous tourner vers l'Eucharistie. Elle l'a dit, par exemple, à Knock en Irlande. Enfin, elle l'a fait sentir, puisque c'était une apparition sans parole. À Amsterdam, plus récemment. Alors là, les apparitions d'Amsterdam sont des apparitions très importantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. C'est des apparitions qui ont lieu entre 1945 et 1959, mais qui n'ont été reconnues par l'Église qu'en 2002. Elles sont parfois méconnues, mais elles sont d'un très très grand intérêt. Donc Amsterdam, et alors pourquoi est-elle apparue à Amsterdam d'ailleurs? Parce qu'il y a eu un miracle de la Sainte Eucharistie à Amsterdam en 1345, il y avait un homme malade qui avait reçu la communion, mais qui, comme il était malade, a régurgité tout ce qu'il avait dans l'estomac, et il a régurgité aussi la Sainte Hostie. Et la personne qui le soignait n'a pas fait attention, hein. Elle a tout porté au feu, elle a tout mis au feu. Eh bien, l'hostie n'a pas brûlé, et l'hostie est sortie des flammes et n'a pas brûlé. Donc on a récupéré l'hostie qui n'a pas brûlé. Et donc ça a été un miracle de l'hostie en 1345 à Amsterdam. Et à la suite de cela, eh bien, il y a eu des processions régulièrement qui ont été faites, et une dévotion qui a été faite à la Sainte Hostie. Voilà. Et la Sainte Vierge a dit, quand elle est apparue dans les années au XXe siècle, elle a dit qu'elle était apparue pour cette raison-là, parce qu'il y avait une dévotion particulière à la Sainte Hostie, à l'Eucharistie. Alors, à Amsterdam, donc, elle a insisté aussi donc, sur le respect de l'Eucharistie et sur le fait de recevoir Jésus. Et elle a eu des mots admirables pour dire que le corps du Christ, le Christ est vraiment présent dans la Sainte Hostie. Vraiment présent, elle l'a dit. Et elle a insisté sur le terme « vraiment présent ». Elle l'a redit à Akita, au Japon, en 1993. L'Eucharistie, a-t-elle dit, l'avant-vie éternelle. L'Eucharistie, l'avant-vie éternelle. Autre point sur lequel elle a insisté, le célibat des prêtres. Vous savez que c'est un point qui est discuté aujourd'hui dans l'Église. La Sainte Vierge à Amsterdam, en 1959, le 31 mai 1959, hein, pas une date au hasard, fête de Marie-Reine, a insisté sur le fait que le célibat des prêtres était une force de l'Église. Alors, elle y a dit qu'il pouvait y avoir des situations un peu particulières qui nécessitent des amodiations, hein. Mais dans le principe, elle a dit que c'était une force de l'Église. Le quatrième point sur lequel elle a insisté, mais ça vous le savez, à travers tout ce qu'elle a pu dire à la Salette et à Fatima, elle a beaucoup insisté sur la pénitence, le fait de faire pénitence, hein, sur la conversion des pécheurs. Pénitence, pénitence, a-t-elle dit à plusieurs reprises, à la fois à la Salette, à Fatima. Ça veut dire recours au sacrement de pénitence, hein, recours au sacrement de pénitence, à la confession, confesser toutes ses fautes, bien se souvenir de ses fautes et penser à n'en oublier aucune, à faire une confession générale quand il le faut, parce que voilà, pour nettoyer notre âme, hein, avant de paraître devant le Seigneur. Donc pénitence, sacrement de pénitence, c'est très bon, ça ne vous étonne pas, hein, de la part de la Vierge Marie. Et puis le cinquième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est ce qu'elle a dit à Amsterdam. Elle a demandé à Amsterdam. À Amsterdam, il y a eu plusieurs choses en fait. D'abord, elle a donné une prière. Elle a donné une prière en 1951. Donc un texte de prière à dire si possible tous les jours. Et je vous la lis, cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples. Alors là, il y a deux versions. Qui fut un jour Marie ou la Bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Amen. Donc c'est une prière qu'elle a donnée pour combattre la guerre. Hein, et elle l'a donnée en 1951, alors que la guerre battait son plein en Corée. Donc cette date n'est pas le fruit du hasard, hein, si elle l'a donnée à ce moment-là. Elle a donné aussi une image d'elle-même, hein, puisque je vois que Madame vous connaissez. Voilà, vous connaissez Notre-Dame de tous les peuples et.
Je ne sais même pas comment je suis arrivée là-bas. Ouais. J'étais dans la maison d'Ida.
Ah oui, bah voilà.
Ouais. C'est un grand congrès et c'est, excusez-moi, je dis ça, c'est le petit père Paul, hollandais, qui avait dit que Marie avait parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Personne n'a cru.
Oui, tout à fait.
Et même l'Église, finalement, il faut l'écouter.
Oui, tout à fait. Oui. Elle a fait des prophéties au cours de ses apparitions d'Amsterdam qui se sont vérifiées, effectivement. Et donc, elle disait aussi ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que jamais le monde n'est passé par une telle époque de déclin de la foi. Elle a non. Jamais le monde n'est passé par une telle époque de déclin de la foi, disait-elle. Donc c'est quelque chose de... Elle visait bien notre époque. Elle visait bien notre époque. Et elle a demandé, donc, à cette, lors de ses apparitions d'Amsterdam, que l'Église et le Saint-Père lui reconnaissent le titre de co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Non. Donc elle a dit que c'était quelque chose d'essentiel, qui était demandé par Dieu, et qu'elle le faisait passer à ce titre-là. Donc voilà, alors cela n'a pas été fait dans les années 50-60. Ces apparitions d'Amsterdam n'ont été reconnues qu'en 2002, donc vous voyez, c'est relativement récent. Et donc la question est toujours ouverte. De cette reconnaissance de ce dogme de Marie co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Voilà. Alors, vous savez que l'Église prend aussi son temps, hein, et le temps de l'Église n'est pas le temps des hommes, hein, mais voilà, cette question est une question importante. Alors voilà ce que je voulais dire, parce que je crois que c'est important, et c'est important de le faire valoir. C'est important de prier cette prière qu'elle a donnée à Amsterdam, parce que c'est une prière pour la paix. Et d'ailleurs, elle a dit que la véritable paix n'apparaîtrait que lorsque ce dogme serait reconnu par l'Église. Donc c'est quelque chose qui est important et sur lequel on peut prier pour que l'Église se penche. Voilà ce que je voulais dire, mais je ne sais pas si j'ai été trop bref ou trop long. Si vous avez des questions, mais les questions peuvent être nombreuses parce que les apparitions de la Vierge Marie sont nombreuses et évidemment je vous ai dit que très très peu de choses par rapport à tout ce qu'elle a pu dire
dans ces livres. Pardon. Le nombre d'apparitions. Et pas tous sont connus, bien sûr.
Alors,
il y a 30 000, non,
dans ce livre, il y a toutes les apparitions reconnues par l'Église, c'est-à-dire auxquelles l'Église a donné le plus grand niveau de reconnaissance, c'est-à-dire pour lesquelles l'Église a reconnu l'authenticité des apparitions. Donc il y a toutes ces apparitions dans le monde sont retracées dans ce livre. Ainsi, s'agissant de la France en tant que fille aînée de l'Église, j'ai étendu le champ des apparitions à celles pour lesquelles l'Église n'a pas encore donné ce stade le plus élevé de reconnaissance, mais pour lesquelles l'Église encourage les pèlerinages. Vous savez, par exemple, l'île Bouchard, l'Église autorise et encourage les pèlerinages à l'île Bouchard, mais les apparitions de l'île Bouchard, qui ont eu lieu en 1947, n'ont pas encore ce degré suprême de reconnaissance. Alors pour la France, j'ai mis aussi ces apparitions.
Et la rue du Bac ?
Alors la rue du Bac, bien sûr, la rue du Bac. Alors la rue du Bac, c'est un peu comme l'île Bouchard. Alors la rue du Bac, l'Église a reconnu la médaille de la rue du Bac, la médaille miraculeuse, parce qu'on l'appelle médaille miraculeuse parce que elle est à l'origine de tant et tant de miracles qu'on l'a appelée la médaille miraculeuse et qu'elle a été diffusée dans le monde à plusieurs milliards d'exemplaires. Mais c'est pareil la rue du Bac, avec les événements dramatiques qui se sont produits dès 1830 et que la Vierge Marie avait annoncé, eh bien, il n'y a pas eu de reconnaissance officielle de l'authenticité des apparitions de la rue du Bac. Pour autant, on sait bien que ce sont des apparitions parfaitement authentiques, mais le décret de l'évêque du lieu n'est pas intervenu.
Il y en a combien alors?
Alors, de celles qui auxquelles le plus haut degré de reconnaissance a été reconnu, il y en a une vingtaine. Et puis, j'ai étendu à quelques-unes de plus pour la France. Alors, au total, il y en a une petite trentaine. Voilà.
30 en France?
En France et dans le monde.
Dans le monde.
En France et dans le monde, oui, tout à fait.
Et 20 reconnus dans le monde.
Et une vingtaine reconnus, un peu moins d'une vingtaine reconnus dans le monde, 17 exactement.
Amsterdam, elle est apparue à qui?
Eh bien, comme disait madame, à une jeune femme qui s'appelle Ida Pederman, entre 1945 et 1959. Il y a eu une longue série d'apparitions, oui. Mais ce n'est pas le seul cas, puisque Olos. Il y a eu avec Benoît Rancurel, il y a eu de longues séries d'apparitions durant de longues années aussi. Hein.
Et c'était une femme croyante ou c'était pas...
Oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Mais très très saine. Hein. Toutes les personnes qui ont bénéficié d'apparitions de la Vierge Marie, on a reconnu que c'était des personnes très équilibrées, hein, très. C'était pas des mythomanes, hein, je veux dire.
Souvent, c'est tombé notamment sur des enfants, parce que j'avais entendu dire, et notamment des personnes plutôt un peu illettrées, ou en tout cas, voilà.
Oui. Il y a eu plusieurs cas comme celui-là. Mélanie et Maximin, par exemple, qui étaient deux petits bergers à la Salette. Effectivement, ils étaient quasiment illettrés. Mais Mélanie, après qu'elle eut reçu l'apparition de la Vierge Marie, c'était une apparition unique. Hein. Il y a eu une apparition unique de la Vierge Marie un seul jour à la Salette, mais après qu'elle eut apparu à Mélanie et Maxima, eh bien la petite Mélanie parlait et comprenait le français, alors qu'auparavant elle ne le comprenait pas. Elle ne comprenait que le patois. Mais c'est vrai que à bien des reprises, et à Fatima c'est pareil, c'était des petits bergers, et puis Bernadette Soubirou, la petite Bernadette Soubirou, eh bien, elle avait du mal à apprendre son catéchisme, elle n'avait pas encore été admise à recevoir sa première communion parce qu'elle était en retard dans son catéchisme. Ouais.
Et en Argentine, vous avez parlé d'apparition en Argentine, elle date de quelle année ?
Alors c'est les années 85-88, à San Nicolas, en Argentine, à une jeune femme.
Et ça, c'est en retour ?
Alors ça, c'est une apparition entièrement reconnue par l'Église. Il y a de très beaux messages de la Vierge Marie à Saint-Nicolas en Argentine. Elle a dit par exemple « N'empêchez pas le Seigneur d'entrer dans votre vie, il m'envoie à vous parce qu'il désire sauver le plus possible de créatures de son peuple. » Donc là, la Vierge Marie, elle vient pour nous envoyer en mission, hein, pour sauver le plus d'âmes possible. Hein, voilà. Et alors le Seigneur, notre Seigneur est apparu aussi à cette jeune femme en Argentine, et il a dit ceci: autrefois le monde fut sauvé par l'arche de Noé, aujourd'hui l'arche c'est ma mère. C'est par elle que les âmes se sauveront, parce qu'elle les conduira vers moi. Donc Marie nous conduit à Jésus, ça c'est une voie absolument certaine. C'est ce que disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, hein. C'est ce que disait Saint Bernard déjà plus avant dans le temps, hein. C'est ce que disait Saint Alphonse de Liguori aussi, hein. La Vierge Marie nous conduit à Jésus, immanquablement nous conduit à Jésus. Et bon, enfin, personnellement, je peux en témoigner aussi, parce que je suis allé, c'est pas vieux, hein, les 9 et 10 mai dernier, je suis allé à Beaune, en Côte d'Or, au sanctuaire de l'Enfant Jésus, je ne sais pas si certains de vous connaissent ce sanctuaire de l'Enfant Jésus de Beaune. Eh bien, c'est un sanctuaire où l'Enfant Jésus est apparu à une sœur carmélite, au XVIIe siècle, qui est la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement. L'Enfant Jésus lui est apparu à maintes reprises. Et donc, depuis lors, il y a une dévotion à l'Enfant Jésus de Beaune, qui est dans l'esprit de la spiritualité carmélitaine, puisque Sainte Thérèse d'Avila avait une spiritualité aussi très tournée vers l'Enfant Jésus. Et c'est aussi par là qu'est venu l'Enfant Jésus de Prague, qui est plus connu que l'Enfant Jésus de Beaune. Mais moi je suis allé donc avec un petit groupe de l'association Lourdes Cancer Espérance, dont je suis le délégué pour l'Eure-et-Loire. Et bien, j'ai été touché au cœur par cet Enfant Jésus. Qui pour moi était vivant, il était vraiment vivant. Et beaucoup de sœurs carmélites ont dit la même chose: cet Enfant Jésus, il est vivant. Et c'est pas étonnant qu'il soit apparu à cette sœur carmélitaine, mais comme il est apparu aussi à Saint Antoine de Padoue, hein, l'Enfant Jésus. Hein. Donc voilà, pour moi, après ce cheminement et puis la rédaction de ce livre, eh bien voilà, Je ressens dans mon cœur l'enfant Jésus, quoi. Si. Et Marie nous amène à Jésus, c'est elle qui nous l'a donné. Hein. C'est elle qui nous l'a donné. Donc c'est pas étonnant, c'est même tout logique que Marie nous conduise à Jésus.
Donc, une phrase que vous avez dite à la fin de votre exposé, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, donc j'ai un problème d'audition, que la Vierge aurait dit que la paix ne serait établie dans le monde que le jour où l'Église reconnaîtrait le dogme de Marie pour rédemptrice, il me semble.
Oui, elle est.
C'est surprenant que
la
Vierge. Enfin, excusez-moi.
Oui, mais ça c'est vous verrez exactement dans quel terme elle l'a dit que je n'ai pas moi je vous l'ai dit en substance, mais l'esprit est bien là. De toute façon, la paix véritable ne vient que de Dieu. Hein. Christ a dit ma paix c'est moi qui vous la donne. Hein. C'est pas la vraie paix vient de Dieu.
Oui, alors hein. Vous n'entendez peut-être pas la paix au sens où on a l'habitude
oui.
d'entendre nous.
Oui. Oui, tout à fait.
Les guerres ne cesseront pas du jour au lendemain.
Oui.
Si l'Église demain reconnaissait ce dogme,
oui, bah, exactement.
Là,
oui.
Les guerres, mais ce n'est probablement pas assez. Là,
oui, tout à fait. Et aussi l'importance qu'il y a donc à prier cette prière qu'elle nous a donnée à Amsterdam pour contre les guerres, les calamités et la corruption qui est quand même un fléau majeur du monde actuel, hein, un fléau majeur du monde actuel. Si des pays sont maintenus si des populations entières sont maintenues dans la misère et la pauvreté, c'est bien parce qu'il y a une corruption terrible. Donc il y a vraiment cela. Il y a vraiment cela.
Et que pensez-vous de
Alors Medjugorje, vous savez que le pape vient récemment d'autoriser les pèlerinages à Medjugorje. Donc nous en sommes à Medjugorje au même niveau que l'île Bouchard, si vous voulez. C'est-à-dire l'Église autorise les pèlerinages, l'Église reconnaît qu'il y a des fruits. Hein, là-bas, mais elle n'a pas pour autant, et le pape y a insisté, l'Église n'a pas pour autant à ce stade reconnu l'authenticité des apparitions. Hein. Donc il faut bien faire la différence entre ces deux niveaux. Voilà.
Par quel procédé l'Église peut authentifier une apparition.
Alors, eh bien, il y a tout un processus, toute une procédure qui est codifiée. Il y a un décret que j'ai mentionné d'ailleurs dans le livre que j'ai repris dans le livre, et toute une procédure avec des enquêtes approfondies, contradictoires et de manière collégiale. Avant que l'Église ne se prononce. Donc il y a vraiment toute une enquête contradictoire avant que l'Église ne se prononce sur l'authenticité d'une apparition. Voilà. Et donc ça c'est un stade.
C'est long,
ça prend du temps. Et puis comment dirais-je, dans certains lieux même cette enquête n'a pas été diligentée. Hein. Elle n'a pas été partout.
L'apparition qui a eu lieu en Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez? L'Église, quelle est sa position?
Sur Garabandal, moi je ne l'ai pas retenu dans ce livre parce qu'elle n'a pas ce caractère authentique qui est requis. Elle ne fait pas partie des apparitions reconnues. Donc moi j'ai préféré centrer ce livre sur les paroles de la Vierge Marie dans ses apparitions reconnues. De manière à ce qu'il n'y ait que ça ne donne pas lieu à débat, mais que au contraire on se saisisse bien et on prenne bien en compte ce que la Sainte Vierge nous dit. Voilà.
Il y a notamment le cinéma français qui s'est intéressé au phénomène d'apparition moderne. Hein,
oui.
Quand on dit qu'il y a un recul, c'est qu'on peut voir aujourd'hui Vincent Lindon quand même dans un film qui s'appelle L'Apparition. Qui pose quand même la question, et c'est super intéressant parce qu'on peut en venir à cette mystique, on cette question sur les apparitions par des, maintenant par des vrais médias dont on voit qu'ils sont bien développés. Donc on voit les enquêtes, on voit comment sont faites les enquêtes avec des ecclésiastes, etc. Donc il y a la question d'apparition, ça intéresse quand même.
Ça intéresse et ça interpelle beaucoup de monde. Ça interpelle beaucoup de monde.
Donc théologiquement, on accède à Jésus en passant par Marie, ce qui est logique et me semble évident, mais est-ce que vous pensez que peut-être des personnes, sans passer par Marie, peuvent aller à Jésus ?
Je pense que oui, mais que et ça c'est la voie la plus sûre, c'est de passer par Marie, parce que Marie est médiatrice entre nous et Jésus et le Christ, parce que le Christ est Dieu, tandis que la Vierge Marie est une créature humaine, mais la plus pure, la plus parfaite qui soit, et donc elle est la plus parfaite médiatrice entre nous et Jésus. Et c'est ce que disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est la voie la plus sûre. Maintenant, vous pouvez emprunter une autre voie, mais c'est la voie la plus sûre. C'est notre mère, et c'est une mère tellement vraie, tellement présente et tellement aimante, qu'elle se soucie de nous vraiment, réellement. Elle nous voit, elle nous entend, elle sait ce que l'on fait. Passer par elle, c'est un trésor, quoi.
Alors, j'approfondis ma question. Comment faire face à des prêtres qui n'ont aucune dévotion face à Marie ? Et qui voudraient nous l'empêcher, enfin, c'est pas qu'ils voudraient, mais même arrivent à l'empêcher.
Je pense pas qu'aucun prêtre l'empêche de.
Je peux témoigner aussi.
Il y a des prêtres anti-Marie, donc ça c'est que
empêche de faire ne mâchez pas les mots à la fin. Et vous disent même que vous n'avez pas le droit de faire.
Et si vous voulez le faire, il y a beaucoup de paroisses à Paris, vous pouvez le faire, et ne pas le faire chez eux. Et que c'est leur paroisse, et que c'est eux, et vous pouvez écrire à l'évêque.
Je crois que c'est dommage, c'est tout. Je crois que c'est dommage, maintenant faut pas tirer. Voilà, c'est dommage, quoi. C'est se priver d'une mère.
Je trouve que c'est très curieux. C'est se priver d'une mère. Moi, je trouve que c'est extrêmement curieux que des hommes curés de paroisse aient ce pouvoir et que l'évêque, parce que bien évidemment tout le monde se couvre l'un l'autre, et que l'évêque cautionne. Moi, c'est parce que je suis tout à fait dans le cheminement que vous avez exprimé. Je pense que c'est la porte. Marie, moi, c'est ce que j'ai mis dans le courrier que j'ai adressé à l'évêque. Ouais. Marie a porté Jésus. Ouais.
Tout à fait.
On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas nous l'empêcher. Oui. Donc que des curés de paroisse empêchent cela, je trouve ça très curieux. Je trouve que notre Église, évidemment, il y a des choses très curieuses.
Il faut être prudent de dire que c'est Marie qui nous a donné Jésus. Ça a une connotation, ça peut avoir une connotation différente, parce que c'est l'Esprit Saint peut-être a donné Jésus
au
fond, mais enfin c'est là que à notre époque est assez œcuménique, même le pape nous donne une certaine mission œcuménique pour réunir les églises un peu divisées. Là les protestants, par exemple, je me rappelle en fait quand j'étais parti à Fatima pour le centenaire, dans le groupe de pèlerins il y avait un protestant, enfin il y avait 12 évangéliques, il y a un protestant. Donc, quand même, on était partis ensemble, et eux, ils étaient curieux de voir ce que c'est l'apparition de Marie, qu'est-ce que c'est. Alors, ils ont tout participé, toutes les prières à midi. Enfin, c'était énorme. Hein. Le pape arrive sur place par hélicoptère, et sur terre, et il y a vraiment. C'est l'océan du monde qui est pris en même temps, le chapelet, le vin, tout ça. Mais après tout, après ce pèlerinage, le protestant n'a pas changé d'avis.
Non, ils ne sont pas changés.
Il a dit, oh, c'est une super chérie.
Bien sûr.
Alors,
comment on peut arriver à l'œcuménisme, avec, parce que c'est toujours Marie qui...
Oui, dans ce livre, il y a une apparition de la Vierge Marie à Vinay dans l'Isère, où elle est intervenue pour convertir un protestant. Elle est intervenue pour convertir un protestant. À Rome, c'est un juif, c'était un Ratisbonne, Alphonse de Ratisbonne. Marie, elle a choisi son camp, si je puis dire. Quand la Vierge Marie est apparue à Cotignac, on fête le 500e anniversaire de Cotignac cette année, elle est apparue sur une terre où le protestantisme... était très actif et donc c'est peut-être pas un hasard aussi si elle est intervenue là-bas de manière à contrer le protestantisme. Donc là, moi, je constate que la Vierge Marie elle souhaite que les protestants viennent aussi vers elle, hein, parce que elle nous conduit à Jésus. Voilà. Bon, en tout cas, l'apparition de Vinay en Isère, elle est très claire. Elle est très claire. Et puis, voilà. Père, vous vouliez dire... Vous avez intervenir.
La question de Marie et Jésus, ça dépend comment c'est attitulé. Parce qu'il y a... Quand nous faisons la théologie du Christ, la Christologie, et Marie, Mariologie, si vous n'avez pas compris le Christ bien et sa connexion avec Marie, tu auras toujours problème avec la Mariologie que tu as passée. Toujours l'équilibre qui est entre la Christologie et la Mariologie, ça dépend comment Marie est située par rapport à Jésus. Dans l'histoire, il y a certains pays où ils ont glorifié, après l'apparition, ça dépend avec la formation, ils ont glorifié Marie que Jésus. On imagina que Marie est au-dessus, ça c'est au-dessus, ça c'est à l'autre.
Au-dessus
de Jésus. C'est ça qui peut faire problème. Si on arrive à donner une dévotion qui montre comme si Marie est supérieure que Jésus. Toujours, nous connaissons que dans la Trinité, il y a Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais pour arriver sur la terre à l'incarnation, Marie est là, avec la Trinité et les autres hommes. Marie a un privilège plus que les autres hommes, parce que c'est elle, c'est la fille de conduite qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas dit que Marie appartient des configurations trinitaires.
Absolument.
Non, c'est le juste milieu. C'est comprendre bien qu'il y a la Trinité. Et Jésus, même si elle est enfant de Marie, elle est toujours la parole de Dieu qui était là depuis éternel, la Verbe qui était avec Dieu, qui est devenu homme. Donc c'est cette articulation qui est très importante. Je me suis étonné de Dieu qui n'a cette fois. Mais ça dépend aussi de l'expérience, parce que de chaque lieu, il y a l'expérience qui blesse. Peut-être qu'il était blessé par les situations où il trouvait ses extrêmes, ou avec sa formation aussi, ça dépend.
C'est de lui laisser sa place, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est tout à fait clair. C'est pas qu'on veuille la mettre au-dessus ou à côté, à la droite ou à la gauche du Père. C'est exactement ce que vous avez expliqué, c'est le conduit. Donc, c'est de nous priver de ce conduit, c'est le thème de votre livre.
Oui, voilà, tout à fait.
Dans l'Église, que la laïcité autour, que ce monde païen nous en empêche, après tout, c'est leur métier, c'est
avec ça que gagne. Par exemple,
pas dans l'Église.
Je donne un exemple, par exemple, qui aussi m'embête parfois. Je serai de la messe, et dans le contexte de la messe, il y a ce qui fait la chapelet en même temps. ça c'est pas acceptable parce qu'il y a la justice.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas de conflit entre Jésus et Marie.
Bien sûr.
On ne peut pas dire en même temps qu'il y a les Palestiniens qui célèbrent Jésus, cette drôle.
Ça c'est juste.
Ça c'est drôle. Et moi, je suis là avec les. Mais ça c'est l'historique et ça c'est quelque chose qui est développé dans l'histoire car les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Mais après 65, après le Vatican II, tout le monde peut écouter tout ce qui se passe avec les larmes locales. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle je dois être là dans la messe. En même temps, j'ai fait le chapelet.
Oui, tout à fait. Et c'est tellement vrai que dans certaines de ces apparitions, lorsque c'est le temps de l'exposition du Saint-Sacrement, eh bien la Vierge se retire. Elle se retire derrière son divin Fils. Voilà. Elle se retire derrière l'autel. C'est l'autel qui est au centre, qui est au cœur. Voilà. Et puis, évidemment, on ne doit pas faire comme le croient à tort les musulmans. La Sainte Vierge, elle ne fait pas partie de la Sainte Trinité. Hein, elle n'est pas. Mais elle est fille du Père, épouse du Saint-Esprit et mère du Fils. Voilà. Elle a une proximité avec la Sainte Trinité qui est très grande, mais elle n'est pas au sein de la Sainte Trinité.
D'accord, mais pourquoi empêcher de dire « je vous salue »
Ah oui,
ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr.
C'est pas pendant la messe, c'est après.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Interdit.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Tu expliques pourquoi?
Non.
C'est pas lui de décider.
Non, c'est eux qui...
Toutes les choses qui se passent dans l'Église, toutes les choses, bien ou mauvaises, si ce n'est pas expliqué, même si c'est quelque chose qui est bon, qui est fait sans reconnaissance ou sans explication, si c'est quelque chose qui est interdit et parfois sans explication, mais s'il donne l'explication ou bien prêt ou pas, s'il donne une explication pour laquelle il fait ce qu'il fait,
son explication, c'est celui qui décide. Voilà. Et je ne veux pas vous dire le nom du Père, parce que c'est lui qui décide. Comme cette église-là, on fait toujours à la fin, je vous salue Marie. Et ben, il a dit non.
Mais c'était pas ici, si vous voulez. Il y a des situations, ne voulez pas entrer dans les combats. Tu n'interdis pas de faire les chapelets chez toi à la maison ou dans une autre église, mais on ne peut pas
prendre ça.
On est un obstacle de la foi. Mais que si là, c'est les sens, ce n'est pas que ça. Vous pouvez dire.
Pour terminer, je vais vous lire ce qu'a écrit Ida Pederman lors de. Alors, elle a retranscrit une de ses apparitions et visions, et ça concerne la Sainte Hostie. Tout d'un coup, la dame avait disparu. À sa place, j'ai vu une hostie. C'était une hostie d'une imposante grandeur. C'est pourquoi j'ai bien vu qu'il s'agissait d'une hostie normale, telle qu'on voit à l'église, faite de pain azyme ou de pain. Un grand calice est alors apparu devant l'hostie. J'ai vu qu'il était d'un or splendide. Il s'est renversé de mon côté. J'ai alors vu du sang s'écouler du calice en flots épais. Tout ce sang tombait sur le globe, ruisselant sur la terre. C'était très désagréable à voir. Ça m'a donné la nausée de voir ce sang couler et encore couler. Tout cela a duré un bon moment. Mais tout d'un coup, tout a changé et s'est transformé en une sainte hostie lumineuse, rayonnante. Une telle lumière en jaillissait que j'ai porté les mains à mes yeux. Je ne pouvais pas la fixer du regard. Et j'ai vraiment cru que j'allais devenir aveugle. Et pourtant, intérieurement, une force me poussait à la regarder. La Sainte Hostie ressemblait à du feu blanc. En son centre, il y avait une petite ouverture ou une cavité, je ne sais pas comment le dire au juste. Tout à coup, j'ai eu l'impression que la Sainte Hostie éclatait, et j'ai vu une forme flottante qui en sortait, une personne tellement puissante, tellement grandiose, pardonnez-moi de ne pouvoir exprimer la puissance ni la grandeur qui en émanait. C'était tellement fantastique. J'osais à peine lever les yeux. Alors que je regardais cette personne imposante, sublime, la certitude se fit en moi, c'était le Seigneur. Je me sentais moi-même si ridiculement petite comparée à cette inexprimable grandeur. Son corps était drapé dans un genre d'étoffe qui partait d'une épaule et tombait en biais sur le reste du corps. Son visage était d'un incroyable rayonnement. Il avait les pieds posés l'un sur l'autre, comme on le voit parfois sur les crucifix. Sur ses pieds, j'ai vu une cicatrice où jaillissaient des faisceaux de lumière.
Les mains étaient quelque peu orientées vers le haut, l'une plus que l'autre. Dans les mains aussi, j'ai vu une sorte de cicatrice. Il en jaillissait de même de puissants faisceaux de lumière. Tout en ne voyant qu'une seule personne, je ne cessais de me dire « Pourtant, il y en a deux, mais en regardant, je n'en voyais qu'une. Je ne pouvais pas me défaire de cette pensée. Pourtant, il y en a deux. Et voici que soudain, du milieu de ces deux personnes, une lumière ineffable a jailli. Puis dans cette lumière, du milieu d'elle, je ne sais comment dire autrement, une colombe. » Rapide comme l'éclair, elle a piqué en bas vers le globe. Une lumière ineffable précédait la colombe et un formidable faisceau de lumière la suivait. Cette lumière, là aussi, était tellement énorme que je n'arrivais pas à la fixer. J'ai porté les mains à mes yeux, je n'en avais pas moins mal aux yeux, mais une fois de plus, une force me poussait à regarder. Quel rayonnement de gloire et de puissance se dégageait de l'ensemble. La forme qui flottait, majestueuse, puissante, sublime, et cette lumière qui irradiait le monde, j'ai alors entendu « Celui qui me mange et me boit prend en soi la vie éternelle et reçoit le vrai esprit. »
Vous expliquez.